Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Enzo Djebali, membre de la cellule de recrutement du Stade de Reims. À confinement exceptionnel, cet entretien s'est déroulé à distance. Nous sommes revenus sur son parcours, son arrivée dans le milieu du football et son travail de recruteur. Nous avons également évoqué sa méthodologie lorsqu'il se déplace pour observer un joueur, mais aussi le recrutement en détail de Predrag Rajkovic, l'importance de la data et des outils qu'il utilise au quotidien, et l'avenir des cellules de recrutement. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Enzo Djebali. Bonjour Enzo Djebali et bienvenue dans ce podcast Prolongation.
Merci Johan, bonjour Johan et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors Enzo, on commence toujours ce podcast par la même question avec tous mes invités. Peux-tu nous raconter un match qui t'a marqué? Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as vécue soit devant ta télé, soit au stade par exemple. Quelque chose qui fait que tu repenses de temps en temps à ce match comme une espèce de une sorte de Madeleine de Proust et que tu apprécies te remémorer en fait.
Oui, j'en ai un particulièrement, surtout par rapport à la métaphore de la Madeleine de Proust. C'est en fait tout simplement le premier match complet que j'ai en tête à la télévision. C'était la finale de la Ligue des Champions, Ajax-Juventus 96. Parce que j'ai des souvenirs d'autres matchs auparavant, comme le Bordeaux-Munich, la finale de l'UEFA avec le but de Raco de Klinsmann à la fin, mais c'est vraiment partiel. Et vraiment le premier match complet où je me rappelle quasiment de toutes les phases de possession, de transition, je accès sur Ajax Juventus 96. Et ce qui m'avait intéressé dans ce match, c'était aussi l'opposition de style que j'ai très vite ressenti, même en tant que gamin. Alors je suis né en 90, donc j'avais à peine 6 ans, et qui très vite m'avait apporté de la tendresse envers l'Ajax. Dans ma mémoire de gosse, j'ai cette équipe qui toujours va gérer la possession, va même faire parfois beaucoup de passes vers l'arrière avec des centraux suffisamment techniques pour conserver le ballon. Et puis dès que ça arrive vers les 30 derniers mètres, il y a parfois un peu d'explosion, de course, d'étincelle, de verticalité. Et en général, la mèche centrale de ce système, c'était Yari Litmanen. Et je t'avoue que j'ai une tendresse toute particulière pour Yari Litmanen, qui est une sorte de one-hit wonder du football de cette saison-là. Mais j'ai vraiment une tendresse pour Yari Litmanen parce que c'est un des joueurs qui m'a fait aimer le football. Et bon, par rapport au scénario du match, c'était pas un match resplendissant. C'est un match qui termine au tir au but, où tu vois la Juventus qui a accepté son sort des tirs au but, qui est vachement agressive, vachement organisée. Mais malgré tout, ça m'a cette façon de gagner par les nerfs, ça m'a même pour mon premier match pratiquement de foot que j'ai regardé, ça m'a carrément comme donné un enseignement du football que pour le gagner, ce football-là, il faut en faire un sport d'homme. Mais pour marquer le jeu, pour marquer l'homme, il faut se rappeler que le football, c'est un sport qui est construit avec la vision d'un enfant. Et que l'enfant que j'étais à cette époque-là était pour l'Ajax, appréciait les principes de jeu de l'Ajax. Et que justement, c'est ces principes de jeu-là que j'ai retenu. Donc il y a ce mélange entre les deux, entre la rigueur et la froideur de la Juventus et l'esthétisme de l'Ajax qui correspond un petit peu au fil conducteur de ma conception du football.
Justement, puisque tu parles d'un match que tu as en mémoire, alors que tu n'avais que 6 ans, même pas 6 ans d'ailleurs. C'est un match que tu as pu voir en entier, d'ailleurs, c'est un des premiers matchs que tu as pu voir en entier où, tu sais, quand on est enfant, on a la limite des parents, en gros. Est-ce que tu peux voir la première mi-temps, les 30 premières minutes, le match en entier? Est-ce que c'est un des premiers matchs que tu as vu en entier, du coup?
Ouais, c'est clairement un des premiers matchs que j'ai vu en entier. Je pense que le premier match que j'ai vu en entier, c'est celui que je t'ai dit en fait, avec c'était le Bordeaux Munich, mais j'étais chez mon oncle. J'ai un souvenir très très épisodique en fait de ce qui s'est passé. Mais sur ce match-là, je m'en rappelle. J'étais à côté de mon papa dans le salon, dans notre appartement. J'étais à côté, voire sur ses genoux. Donc il y avait vraiment une tendresse familiale. Donc c'était un vrai moment de 1h30 de match que je me rappelle intensément avec pratiquement chaque détail. Et donc oui, j'ai pu le voir en entier, c'est pour ça que je me rappelle très bien de ce match-là.
Quel était ton rapport au foot quand t'étais enfant? T'étais un vrai passionné, un vrai dingue de foot. Tu le pratiquais en club, tu le suivais à la télé, t'avais l'opportunité d'aller au stade. C'était quoi ton rapport au foot?
Eh bien, écoute, mon rapport au foot, bon, c'est bateau de dire que je suis passionné, mais surtout j'ai beaucoup apprécié le foot parce que ça m'a permis de me structurer sur plein de choses de ma vie, déjà sur la géographie des clubs, l'histoire des clubs, et mine de rien, les actions et les émotions que ça m'a transmis, c'est des choses que j'ai très vite gardées en mémoire et que j'ai souvent des anecdotes ou des détails d'actions qui frappent ma mémoire. Et ça, il y a pratiquement que le football qui me frappe autant. Et donc très vite, j'ai accroché au football. Parce que ça m'a attaché de cette manière. Et par rapport au stade, j'avais mon grand frère David qui était abonné en Tribune Paris, au Parc des Princes. Donc parfois aussi j'ai des réminiscences de matchs du Parc avec cette ambiance fabuleuse. C'était une époque. C'est pas l'époque Ginola, c'est plus entre Raí et Simonet, cette époque-là du parc. Et tout ça a franchement constitué mon enfance. Il y a même d'autres souvenirs qui me marquent. C'est que je suis le tout dernier de mes de ma fratrie, et du coup mes parents sont relativement âgés. Et du coup, lorsqu'il y avait des dîners, même quand j'avais 10-11 ans, je participais au dîner comme un adulte pratiquement. Et souvent, mon père recevait des collaborateurs qui étaient étrangers, portugais ou italiens. Et lorsque il y avait un collaborateur italien, par exemple, j'étais dingue de Serie A à l'époque, et je disais: ah, tu es pour l'Inter, tu te rappelles de tel joueur et de tel match. Et moi, j'essayais de tout regarder. À l'époque, c'était compliqué. J'essayais de me documenter, de regarder des VHS. J'avais plein de VHS de matchs compilés ou de best-of de meilleurs buteurs. Et j'essayais de m'instruire de tout ça. Et je disais: tu te rappelles de lui? Qu'est-ce qu'il a fait à telle date, à tel moment, à tel match? Et tu te rappelles quand il a eu ce joueur-là? Et puis un jour, il y avait donc c'était un fournisseur italien qui avait dit, qui était interiste depuis 20 ans, qui était abonné à Giuseppe Meazza depuis 20 ans. Il m'a dit: Victor, je crois que ton fils, il connaît mieux l'Inter que moi. Ça fait 20 ans que je suis abonné et il connaît mieux l'Inter que moi. Et à ce jour, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait sur le football.
Et donc, tu étais un fan un peu compulsif dans le sens où tu compilais beaucoup de choses, de données, de tout ce qui tombait un peu sous la main, que ce soit en match ou peut-être en article de presse, en coupure également. Tu étais un vrai dingue de foot, en fait, comme beaucoup de jeunes enfants qui voient dans le football un moment de partage, d'émotion, de sport aussi en lui-même, évidemment.
Exactement, et en plus de ça, ce que j'avais comme faculté, que j'ai de moins en moins, mais que j'ai quand même encore un peu, c'est cette. Je suis pratiquement jamais en société de foot. Tu sais, les VHS que je t'évoquais, j'étais capable de les revoir 10 fois, 20 fois, voire 30 fois, sans pouvoir m'en lasser. Et c'est cette faculté-là qui était grande chez moi.
Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas aussi la même consommation de football et l'offre était évidemment beaucoup moins importante à l'époque. Donc évidemment, il y avait beaucoup moins de matchs à la télé. On n'avait pas encore Internet si on reprend dans les années 90.
Tout à
Internet
fait.
commençait. Voilà, on n'avait pas toute cette offre même de magazines de foot, etc. où c'était disponible en un claquement de doigts très rapidement. On peut retomber aujourd'hui sur des sites qui proposent des matchs des années 80, 70, etc. À l'époque, fallait aller acheter des VHS, fallait se déplacer pour consommer du foot quelque part. On pouvait quasiment rien recevoir chez nous. On avait quelques matchs évidemment, mais il fallait aussi aller vers l'extérieur pour revenir ensuite à la maison avec des VHS, des magazines. Aujourd'hui, on peut tout consulter quasiment depuis son canapé. C'est peut-être ça qui fait que les très jeunes enfants aujourd'hui, on a un peu ce sentiment-là, c'est qu'il y a une surconsommation très rapide, mais en fait en snackant en fait très rapidement le contenu. Alors que toi, sans doute, à ton époque, tu pouvais passer des heures et des heures à regarder la même vidéo parce qu'au final, t'avais que ça, entre guillemets, en termes de foot. T'avais peut-être 15, 20 VHS, mais sur l'année, en fait. Et donc, du coup, t'avais pas toute cette offre qui te permettait de, bon, allez, je prends mon iPad, je vais consulter un truc, ensuite, je vais regarder sur mon ordinateur un match, et puis ensuite, je vais aller sur Twitter, je vais regarder des clips d'action, etc. C'est vrai que la consommation du foot était très différente entre ta jeunesse qui est quasiment la même que moi, puisque moi je suis né juste quelques années avant toi, et puis
Ouais.
les jeunes enfants aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Et puis, pour rebondir sur ce que j'ai vécu, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très réceptif parce que j'avais des idées très précises de ce que je voulais voir. Et donc, j'avais un père qui m'a gâté très sincèrement et qui était très réceptif à ce que je voulais voir comme match, à ce que je voulais voir comme compilation. Parce qu'à l'époque, ce qui était la mode, c'était les compilations de matchs. C'était vraiment ça la mode à l'époque. Mais par rapport à ce que je vais rebondir sur ce que tu disais sur la nouvelle génération. Je trouve que c'est une chance formidable qu'a notre génération et que cette génération actuelle, là, la fameuse génération X ou Y, je sais plus comment on l'appelle, mais n'est pas obligée de snacker ses contenus et a la capacité de voir des matchs en entier. Moi, bah, justement, pour un petit peu surfer, j'essaie de voir comment je pouvais trouver certains matchs entiers de finale des années 2000 qui m'ont marqué. Et c'est en un claquement de doigts, je pouvais
Ouais.
trouver. Et c'est une richesse-là qui fait que pour moi, la jeunesse d'aujourd'hui a beaucoup plus d'outils que notre jeunesse à nous. Et je pense que cette jeunesse-là aura, pour l'élite d'entre elles, aura un QI football beaucoup plus développé que le nôtre. J'en suis intimement persuadé.
Alors on va faire un grand saut dans le temps. On va prendre 20 ans en un seul coup, en quelques secondes. On va aller jusqu'en 2015, puisque c'est là que tu débarques dans le monde du football professionnellement, cette fois-ci. Tu rejoins une société d'agents de joueurs dans laquelle tu t'occupes du scouting et de l'analyse vidéo. Le premier petit point que je veux faire sur cette expérience avec toi, c'est est-ce que tu avais des a priori sur ce monde-là, puisque tu rejoins une boîte d'agents? Est-ce que tu avais des a priori en arrivant? Parce que le milieu des agences, c'est un monde qui fait quand même beaucoup fantasmer. Et quand tu découvres ça, est-ce que tu es étonné et surpris?
Je vais t'avouer un truc, je vais peut-être paraître candide, mais je n'avais aucun a priori sur les agents avant d'arriver et de collaborer avec des agents, et en l'occurrence en particulier. Mais vraiment aucun. Pour une raison très simple, c'est parce que je m'étais jamais destiné professionnellement à travailler dans le football. J'avais conservé cette âme de passionné et je n'avais jamais un petit peu fantasmé sur les arcanes, les coulisses du football. bizarrement. Et d'ailleurs, je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet de garder ma motivation intacte parce que j'applique mes valeurs du travail au football et je n'applique pas mes valeurs du football au travail. Et donc, franchement, non, je n'avais aucun a priori. Et cette vision un petit peu technique que j'avais en collaborant avec cette boîte d'agents, mais après, bien évidemment, tout en gardant ma liberté qui va justement me permettre plus tard de collaborer avec des clubs, c'est cette liberté-là qui fait que justement mes a priori n'ont jamais été entamés par. Enfin, mes a priori, je n'avais justement, mais mon absence d'a priori n'a jamais été entamée, je n'ai jamais été déçu ou désenchanté par ce que j'ai découvert, parce que justement, moi, je n'ai jamais travailler comme agent. Moi, je n'ai jamais été. Voilà, j'ai collaboré avec une boîte d'agents, puis après d'autres, puis après des clubs. Et
Tu peux nous expliquer justement ta mission à ce moment-là dans cette société d'agents?
alors, moi, ma mission, en fait, elle était très simple. C'était donc une boîte d'agents qui voulait vérifier donc la performance de leurs propres joueurs, observer les autres matchs. Et donc possiblement suggérer, et aussi pour les joueurs en question, faire des retours complets sur leur performance, sur ce qui avait été, ce qui n'avait pas forcément été. Donc c'était un travail technique, et sur le contexte par lequel j'étais arrivé, il y avait aussi ce travail de la statistique qui était vraiment novateur pour l'époque, sur lequel très vite on a compris que je pouvais être en avance et je pouvais apporter là-dessus pour la société, pour les joueurs et pour ma propre société pour plus tard. Et donc c'est ça le rôle que j'avais en premier lieu. Et au final, ce rôle-là, je l'ai développé de la même manière pour les clubs. Et puis lorsque j'avais ma boîte. Et puis très très vite, ça s'est lancé.
Et justement, donc tu étais en charge de l'analyse vidéo et des rapports entre guillemets pour les joueurs, notamment qui étaient sous contrat avec cette société d'agents. Comment tu t'es formé à ça? Parce que dans ton parcours universitaire ou même dans tes missions précédentes, tu n'avais pas ce rapport au football. Je rappelle un peu pour nos auditeurs, tu as fait une école de journalisme à l'ESJ, l'École supérieure de journalisme. Ensuite, tu as travaillé dans l'entreprise de tes parents, qui a mis lieu du football,
Ouais, tout à
puisque
fait.
voilà.
Ouais,
Et puis,
il vend du matériel de cuisine professionnelle.
exactement. Et puis ensuite, tu arrives dans cette société d'agents. Déjà, est-ce que ton rapport au foot était toujours aussi important et essentiel pour toi lors de ton enfance, c'est-à-dire quand tu as évolué, quand tu étais étudiant, quand tu as commencé tes premiers jobs, est-ce que tu étais toujours très attiré par le football pour ensuite arriver à cette société d'agents?
Faut croire que oui, parce que très vite on m'a surnommé le fou. Donc faut croire que la passion était intacte et que le côté un petit peu méticuleux, parfois compulsif, était resté intact dans la capacité à engranger des matchs. Et tout simplement, comme tu l'as très bien dit, en fait, je sortais d'une expérience entrepreneuriale. Donc j'ai essayé d'appliquer une rigueur commerciale ou une rigueur de travail d'entreprise à mon propre travail. Ça veut dire que j'avais trois dossiers distincts. J'avais la relation avec les joueurs dans l'analyse et dans l'écoute active, l'analyse des performances des joueurs intrinsèques, et ensuite la prospection, le pure scouting. Et donc du coup, ça faisait des dossiers et chaque dossier était creusé en profondeur selon une méthode entrepreneuriale. Et donc j'ai vraiment appliqué cette méthode entrepreneuriale pour creuser les éléments du football. Et effectivement, parfois j'avais, malgré ma passion, quelques lacunes sur le prisme technique à analyser,
Ouais.
mais très vite sur le tas,
Mais comment tu l'as comblé ça du coup?
tout simplement avec l'échange. Tout simplement avec l'échange, en disant avec l'échange auprès de l'agent, auprès du joueur. Et comme je disais, comme je savais que j'étais dans une position où très novice, j'étais beaucoup en écoute active. Ça veut dire que même lorsque je faisais des débriefings avec les joueurs, j'amenais souvent les joueurs à m'expliquer ce que, sur cet extrait vidéo, ce qui n'est pas allé ou ce qui est allé, et très très vite sur les techniques de cadrage, sur tous les éléments physiques qui peuvent inclure tous les éléments physiques et musculaires qui peuvent inclure l'analyse physique d'un joueur sur la proprioception, sur la pliométrie, sur l'isométrie, sur tous ces éléments-là, très vite en fait, par l'échange et par aussi la volonté de se cultiver personnellement et de ne pas être largué, très très vite avec cette humilité-là de travail, cette rigueur de travail, on y arrive en fait. Mais toujours en fait en étant dans l'écoute active en fait, ça veut dire amener les questionnements qui vont toi-même te permettre de comprendre toi-même ton métier, mais en même temps de progresser dans le métier et du coup chacun progresse dans le métier.
Alors, puisque tu parles de progression, un an plus tard, à peu près, en 2016, tu montes en parallèle ta propre société de scouting et tu commences à travailler en freelance pour notamment plusieurs clubs français.
Tout à fait.
En 2018, tu rejoins le Red Star en tant que responsable de la cellule de recrutement et un an plus tard, le Stade de Reims. Donc, on est sur une progression quand même très importante en très peu de temps. Le Stade de Reims, tu rejoins leur cellule de recrutement et c'est ton poste actuel.
Tout à fait.
Du coup, tu as vu le côté agence, tu as vu le côté club. Quelle grande différence tu as pu constater et tu notes entre cette vision d'un agent et d'agence de scouting et de l'autre les responsabilités en termes de recrutement de club? Et justement, est-ce que la plus grosse différence c'est le poids de la responsabilité en club qui peut être très très important, voire même démesuré?
Je pense effectivement que c'est la principale différence. C'est la principale différence, en fait, entre les responsabilités, j'ai envie de dire, émotionnelles qu'inflige un club et les responsabilités entrepreneuriales qu'incombe une entreprise d'agent, c'est complètement différent. Ça, c'est clair que ça change un homme d'une différente manière. Surtout, les strates à l'intérieur d'un club sont structurées différemment. Au final, les facteurs humains sont beaucoup plus importants et surtout sont beaucoup plus capillarisés. Ça veut dire que très vite, un grain de sable dans l'organisation d'un club, très vite peut avoir une incidence beaucoup plus décuplée, car le facteur humain est tout simplement le capital de l'entreprise. Et ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Quoi qu'il arrive entre un club et une agence. Et c'est pareil pour les médias, parce que le capital pour un média, parce que j'ai aussi collaboré avec des médias, le capital pour un média, c'est l'information. Et sur ces trois capitaux différents, eh ben, le capital humain, l'ajustement, t'apprends tous les jours. L'ajustement est toujours, la ligne de crête est très, 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 très fine.
Est-ce que ton passage justement dans cette société d'agent t'aide aujourd'hui dans ton métier de recruteur?
Bien sûr, mais alors il faut juste, je vais rappeler quand même deux choses par rapport à ta question. La première, c'est que moi, de mon côté, je n'ai jamais été agent et ça ne m'a jamais
Oui.
intéressé. Et le rôle que j'avais dans ma collaboration était fondamentalement et unique et intrinsèquement tactique et technique d'ailleurs. Donc, du coup, par rapport à cet aspect-là, j'en ai pas grande conscience. La seule chose que je peux te dire, c'est que ça m'a permis de relativiser sur l'attachement qu'on peut avoir auprès d'un joueur, ou l'attachement qu'on peut avoir auprès d'une performance, ou l'attachement qu'on peut avoir auprès d'un match ou d'un club. Ça, effectivement, ça m'a permis de plus rationaliser les éléments du football et de dépassionnaliser tout ce que je voyais à la télévision, dans les médias, etc.
En gros, tu as eu un apprentissage accéléré, du coup, tu estimes que tu as pu apprendre beaucoup plus rapidement en ayant eu cette première expérience avant d'arriver côté club?
Oui, clairement. Et puis, ça m'a constitué un réseau, ça m'a constitué des connaissances, et ça m'a constitué aussi la manière de quel est le lexique que tu dois utiliser, ou quelle est la manière d'écouter les personnes du football. Parce que chaque monde a ses codes, et il faut les respecter. Et le monde du football a ses propres codes, et il faut le respecter.
Le métier de recruteur est un métier très très à la mode entre guillemets dans le sens où beaucoup de personnes qui apprécient le football ou qui sont amateurs de football on le voit hein, sur notamment sur les réseaux sociaux, aimerait devenir agent. Il y a une sorte de recruteur.
Oui, recruteur.
Ouais, exactement, recruteur. On a le sentiment qu'il y a un peu cette, c'est un peu une hype, une tendance entre guillemets de devenir recruteur. Et il y a eu avant la hype de devenir agent. Est-ce que tu ressens dans ce que tu vois, dans les échanges que tu peux avoir, dans les sollicitations dont tu peux faire preuve, est-ce que tu as vraiment ce sentiment que le recrutement, qui est beaucoup mis en avant à travers les médias maintenant, il faut voir que c'est avant c'était essentiellement lors du mercato, maintenant comme il y a de plus en plus de personnes qui parlent de foot, qui débriefent le foot, qui débriefent les performances, qui décryptent un peu comment fonctionnent les clubs, on a des retours en permanence, des discussions en permanence, et donc disons qu'une cellule de recrutement travaillait dans l'ombre, a travaillé dans l'ombre pendant très longtemps, pendant des années on s'est pas trop intéressé à ça, et maintenant c'est devenu un facteur très important de la vie économique d'un club, et donc il est très souvent mis en avant. Est-ce que tu ressens un peu cette tendance, cette hype liée à ton métier?
Oui, complètement. Et il y a plusieurs éléments qui rebondissent sur ce que tu viens de dire, Johan. Le premier, c'est que de plus en plus, lorsqu'il y a des bons ou des mauvais résultats, à mon époque, quand on lisait les commentaires, c'était « Ah oui, c'est un bon entraîneur, oui, c'est un mauvais entraîneur ». Et de plus en plus aujourd'hui, lorsqu'il y a des bons résultats, c'est « Ah oui, le recrutement est bon, ah oui, le recrutement est mauvais ». Et ça, déjà, c'est un prisme qui a changé dans la manière d'appréhender le football dans les commentaires. Le deuxième prisme que je vois, c'est tout simplement les messages que je reçois sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me demandent comment fait-on pour être agent ? Est-ce qu'il y a une école ? Est-ce qu'il y a une formation ?
Pour être recruteur, tu veux dire ?
Pour être recruteur. Est-ce qu'il y a une formation ? Quel est votre parcours ? Quel est votre cursus ? C'est à quoi je dis, bah, si je vous raconte mon cursus, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas vraiment de formation ou d'école. Et la seule chose que j'essaie de raconter à ces personnes qui me posent des questions, c'est déjà d'une, ne lâchez pas l'idée que vous avez en tête, mais surtout essayez d'alimenter concrètement avec les outils que le football peut vous offrir, avec toutes les associations qu'il y a de football. N'hésitez pas à engranger de la connaissance concrète, à entraîner des gamins, à essayer de passer des diplômes, pour essayer déjà de comprendre ce que c'est techniquement fixer des équilibrés, ce que c'est techniquement une technique de cadrage, comment on transfère son poids sur une passe. Déjà, rien que ça, déjà, ça va vous aider pour évaluer un joueur. Ensuite, je conseille toujours d'aller voir des matchs. Allez voir des matchs dans votre quartier. Allez parler aux personnes qui sont autour des mains courantes. Demandez qui est qui. Demandez qui fait quoi. Soyez curieux. Et c'est la seule chose que je peux donner, c'est que le football, c'est un monde qui est difficile à percer, mais c'est un petit monde. Donc, si, même sur des matchs locaux, si vous êtes un éducateur chez vous ou si vous êtes un spectateur avisé de certains matchs de jeunes, de certains matchs régionaux, bah déjà, vous entrez dans ce monde-là et déjà, vous aiguisez votre œil. Donc, quoi qu'il arrive, ce que vous avez gagné là, ce n'est pas perdu. Et ça, il ne faut pas le lâcher. Et je comprends aussi pourquoi il y a cette mode qui commence à venir, parce que il y a de plus en plus de personnes qui effectuent des travaux sur Twitter, des travaux d'analyse, des travaux de réflexion tactique, qui sont contactés par les clubs eux-mêmes, parce que les clubs eux-mêmes veulent parfois de la nouveauté, veulent parfois sortir un peu du sérail du football en apportant des choses nouvelles. Donc ça inspire les gens qui rêvent de travailler dans le football, et je les comprends parfaitement. Et ce à quoi bah, je réponds tout ce que je viens de dire précédemment.
Et est-ce que tu as le sentiment, c'est une question un peu étrange peut-être, mais que cette hype a été poussée par notamment la popularité de Football Manager, qui est un jeu de simulation de club où on cherche des pépites, où voilà, il y a une grosse part en fait. Football Manager, qui est un jeu de simulation de football, il y a deux grandes parts. La première part, c'est trouver les pépites, acheter, etc. La deuxième, c'est d'entraîner son équipe. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes sont surtout intéressés par la première partie, qui est découvrir les pépites, négocier les transferts, ce genre de choses-là, et beaucoup moins par la deuxième partie. Est-ce que tu as le sentiment que le nombre de joueurs très croissant de ce jeu vidéo, qui a ensuite été alimenté par beaucoup de discussions, d'articles sur Internet, dans la presse spécialisée, etc. Est-ce que tu as le sentiment que ça a aidé à populariser ce métier ?
Peut-être. La seule chose que... Moi, j'ai une thèse là-dessus, j'ai une idée là-dessus. Je vais essayer de la détailler. Déjà, il y a beaucoup de mythes autour de Football Manager. Et il faut savoir que moi-même, je n'utilise pas du tout Football Manager pour mon travail. Et je sais que, Dieu sait que il y a beaucoup de personnes qui m'ont entre guillemets accusé de ça. C'est pas du tout un outil pour le scouting. Aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus puissants, beaucoup plus concrets pour le travail du recruteur. Là, moi, j'ai une thèse personnelle concernant Football Manager. On a évidemment la génération 90 a toute grandi sur, en tout cas, celle qui voit le football avec ce prisme-là, a toute grandi avec le jeu Football Manager et pour certains FIFA. Le problème, c'est que le jeu Football Manager est de plus en plus réaliste et de plus en plus poussé, y compris dans les dynamiques de groupe, dans les dynamiques de vestiaire. Et du coup, ça crée de plus en plus l'illusion lorsqu'on réussit nos parties sur Football Manager qu'on est capable de prendre en main et de prendre en conscience tous les tenants, les aboutissants du monde du football. Or, le problème, c'est que les facteurs humains réels, ça ne se gère pas comme des clics et des coups de clavier sur un ordinateur. Les facteurs humains, c'est des discussions, c'est du travail, c'est une façon de faire comprendre les messages, c'est une façon de les entendre, c'est une façon de les écouter. Et ça, c'est clairement la différence fondamentale. Donc aujourd'hui, le problème de Football Manager, c'est qu'il devient plus un mythe qui à la fois trompe ceux qui sont persuadés qu'ils peuvent entrer dans le monde du football avec ça et crée un mythe énorme qui ne devrait même pas être pour ceux qui ne maîtrisent pas ce jeu qui est devenu presque un logiciel pour certains.
On parlait de tendance et de hype du métier de recruteur tout à l'heure. Une autre tendance et une autre hype, c'est quand même le Stade de Reims. Actuellement, ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque le Stade de Reims réalise de très belles performances depuis deux saisons maintenant en Ligue 1. Toi, tu as rejoint le Stade de Reims en avril 2019, donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant, tout juste un an, un petit peu plus d'un an. Le Stade de Reims est régulièrement cité pour la qualité de son recrutement depuis, on va dire, les 2-3 saisons, surtout ces derniers mois, en tête de liste, dans les échanges des supporters, des amateurs, des consultants, il y a évidemment le gardien Predrag Rajkovic, qui a d'ailleurs été élu par de nombreux médias gardiens de la saison 2019-2020, qui s'est donc achevé prématurément. Ce gardien, vous êtes allé le chercher en Israël. Pour détailler un petit peu le dossier, typiquement sur ce joueur-là, combien de matchs vous avez observé de lui en direct, entre guillemets, combien de temps vous avez passé ensuite, on reviendra un peu sur une thématique data, plateforme en ligne, etc. un petit peu plus tard, et combien de séquences de lui vous avez passé sur des logiciels spécifiques, etc.
Alors, Predrag Rajkovic, j'ai une anecdote marrante à raconter d'abord là-dessus. Il faut savoir que lorsque je passe mon entretien d'embauche pour le Stade de Reims, c'est un entretien d'embauche extrêmement exhaustif que j'ai passé avec des requêtes sur plein de scénarios fictifs sur le club, sur tel poste, donne-moi ton top sur telle position, sur telle catégorie d'âge, sur tel profil technique, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, ça a été vachement exhaustif. Et du coup, lorsque j'ai réussi cet entretien d'embauche, moi, j'avais soumis dans le top 5 prospects gardiens, j'avais soumis Predrag Rajkovic. Et en fait, lorsque j'arrive et que je signe au Stade de Reims, on m'explique, voilà Enzo, dans ton top 5, t'as mis Predrag Rajkovic. Nous, on est intéressés par Predrag Rajkovic parce que notre gardien, Edouard Mendy, est très sollicité. Donne-moi le maximum d'informations que tu peux faire. Nous, on l'a observé plusieurs fois sur place, Te dire combien, je n'ai pas l'information. On l'a observé plusieurs fois sur place. Connaissant un peu le stade de Reims, je pense que c'est bien plus d'une dizaine de fois. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai jamais observé sur place. Par contre, en revanche, j'ai déjà observé, j'ai déjà analysé sur toutes les coutures, tous les matchs de Drajkovic. Je les ai analysés sur chacune strate. Et je pense que j'ai dû en analyser une soixantaine. Parce que j'ai dû analyser ses matchs internationaux et les matchs des deux dernières saisons pour à la fin donner un rapport complet pour donner un rapport positif sur le dossier Rajkovic.
Tu parlais justement du contexte de ton arrivée et du fait que le Stade de Reims réfléchissait déjà à une solution de remplacement pour un gardien qui était Édouard Mendy et donc très courtisé et qui finalement a rejoint le Stade Rennais. Ça, c'est un point très important que je voulais évoquer avec toi. On parlait tout à l'heure de la différence entre être en club et être au sein d'une société d'agents, entre guillemets, et de l'importance des relations humaines au sein du club de travail en équipe. Il y a un peu deux écoles sur le recrutement, tu sais. On entend souvent dire, c'est l'entraîneur qui a décidé. Et puis, de l'autre côté, on entend souvent, bah, ce genre-là a été imposé à l'entraîneur. Qui n'en voulait pas et qui peut expliquer parfois qu'il ne joue pas ou qu'il n'a pas la confiance de son entraîneur. Comment trouver par ton expérience au Red Star, au Stade de Reims, comment réussir à trouver ce juste milieu entre impliquer évidemment l'entraîneur puisque c'est lui qui aura à disposition les joueurs qui vont être recrutés par le club, et donc forcément si on prend un profil qui ne l'intéresse pas du tout, ça paraît compliqué puisqu'il n'aura sans doute pas l'envie ou le besoin, tout simplement, même sans parler d'envie, le besoin de le faire jouer. Comment on réussit à ne pas non plus tout donner les clés à un entraîneur, puisque de facto, un entraîneur est aussi souvent de passage. La durée de vie d'un entraîneur dans un club est quand même extrêmement limitée. Donc si on multiplie les requêtes précises d'un entraîneur et que derrière, on est obligé de faire, pour X ou Y raison, ou par choix aussi, parce que c'est pas forcément une obligation, on choisit un entraîneur à l'esprit, la philosophie de jeu totalement différente, on se retrouve avec des joueurs qui finalement ne correspondent plus à ce que le nouvel entraîneur veut. Comment réussit cet équilibre qui, au final, est assez fragile parce que, voilà, il faut pas se tromper dans le recrutement, ça a un lourd impact économique, à la fois en direct sur les finances du club et puis aussi selon comment se déroule la saison. Plus tu vas réussir ta saison, plus économiquement le club va être impacté, positivement pour le coup, si tu réussis.
Alors, si je résume ta question, en fait, c'est comment faire le compromis entre la qualité d'un recruteur et la place que,
Exactement.
du coup, le recruteur doit avoir entre sa compétence. Bah, écoute, vaste question. Donc, tu vas me permettre, s'il te plaît, Johan, d'être exhaustif.
Je t'en prie.
Bon, déjà, donc justement, entre définir bah, la qualité, justement, pour définir quel est le juste milieu entre la qualité, enfin la compétence et la qualité d'un recruteur et la place du recruteur, je pense que pour moi, il faut définir les deux. Et déjà, le premier, c'est la qualité du recruteur. Pour moi, le recruteur ne doit pas avoir des qualités, il doit avoir une qualité, et c'est l'esprit de synthèse. Parce qu'on peut tourner autour du pot, on peut dire, il faut avoir l'œil, ah, l'œil, moi j'ai vu, j'ai joué. Savoir, je sais si le joueur est bon. Franchement, si je peux me permettre, je trouve que c'est un peu des conneries. Parce qu'un gosse de 6 ans, il le fait très très bien aussi. Et on peut dire aussi, il connaît le ballon, etc. Alors, la connaissance, bien évidemment, elle est fondamentale. La connaissance technique, c'est. Mais pour moi, c'est pas une qualité. Pour moi, c'est un outil sur l'esprit de synthèse. Moi, je vais parler de mon exemple personnel. C'est que, personnellement, comme je disais, je suis pas parti dans le football avec tous les outils. Et c'est pour ça que. À mon club, j'ai passé mes diplômes CFF 1, 2, 3, 4 pour essayer de savoir comment on enseigne, comment un coach enseigne, comment on apprend techniquement, comment toutes les techniques s'apprennent et se transmettent. Et du coup, ça me permet d'être un outil sur l'analyse. Mais c'est pas ma qualité. Et parce que moi, ma qualité, c'est de conclure quelque chose en fonction de tous les éléments qu'il y a dans le club. Et moi, ma conclusion, c'est me projeter pour le club. Et donc, savoir si un joueur il est bon ou pas, c'est pas ma conclusion. Moi, ma conclusion, elle doit prendre en contexte le contexte humain dans le club, le contexte à l'extérieur du club, dans la ville aussi, ça peut jouer, les éléments à l'intérieur du club, les infrastructures, l'histoire du club, les qualités, les défauts, l'identité. Tout ça doit être en tâche de fond de tout le travail d'un entraîneur aussi les éléments financiers, contextuels. Tout ça, ça doit être en tâche de fond de l'esprit de synthèse du recruteur.
En fait, Enzo, quand tu parles d'esprit de synthèse, c'est l'analyse situationnelle globale du club, de la ville, de tout l'environnement.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En fait.
Ouais, tout à fait, parce que ça, c'est situationnel, donc c'est le présent, c'est le passé présent, c'est le passé proche, c'est le passé très lointain, et donc bien évidemment, en fonction de ça, se projeter sur l'avenir. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est ce que je disais avant. L'élément technique, l'élément que transmet le coach, bah, c'est un élément parmi tant d'autres sur la conclusion que tu vas avoir. Donc, l'élément du coach, c'est l'élément de la vision du football qu'il a actuellement, et cet élément-là, c'est un élément technique pour ton travail. C'est pas un élément à critiquer. Tu peux être d'accord ou pas être d'accord avec l'intime conviction du coach sur ce qu'il veut mettre en place, sur la vie qu'il a d'un joueur, sur la vie qu'il a de gérer une équipe, sur la vie qu'il a sur le match. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux être d'accord avec ce qu'il va te dire. Mais en vrai, on s'en fout. C'est pas ton travail. Ton travail, c'est pas d'accord ou pas d'accord, c'est de prendre le maximum d'informations que te transmet la cellule technique, donc le staff, le coach, ou même les autres, hein, ça peut être les préparateurs physiques, ça peut être les adjoints, ça peut être toutes ces données-là, prendre le maximum d'informations pour avoir la vision complète du club et avoir la vision complète sur le plan technique que te transmet le coach. Alors, bien évidemment, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être béni, oui, il faut avoir un échange constructif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'échange que tu dois avoir avec, selon moi, hein, que les recrutements doivent avoir avec un staff technique, il est de nature didactique, il n'est pas de nature problématique, il n'est pas de nature à faire une antithèse. Il est de nature à développer le plus possible les thématiques techniques pour avoir le plus d'informations sur ce que exactement. Ce qui colle au projet de jeu, ce qui colle au contexte, ce qui colle à ce qui est en train de se faire, à ce qui est en train de se construire. Et donc, du coup, bah, la problématique du recrutement, c'est seulement les recruteurs qui doivent l'écrire. Du coup, mais avec le maximum d'éléments qui est transmis par le technique. Donc, c'est ça la nuance, en fait. Et c'est pour moi, le point d'équilibre, il est là-dedans. Ça veut dire qu'on doit être au maximum dans l'écoute active. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la seule place du recruteur. C'est l'écoute active.
Ouais.
C'est la seule place du recruteur. C'est l'écoute. C'est point à la ligne. C'est la seule place qui permet en fait de bien mettre son travail. Et donc nous, notre rôle au recruteur, c'est d'être dans l'écoute active.
C'est un rôle d'accompagnement du staff technique.
Exactement, exactement.
Tu parlais du fait de prendre le maximum d'informations pour faire ton travail. Un des outils de travail que tu as au quotidien et qui te donne aussi beaucoup d'informations. Qui te permettent de parfois compléter un peu ce que tu vois en direct, c'est les outils d'analyse. Alors on va en citer deux ou trois, mais il y en a beaucoup d'autres. On parle de plateformes comme Wisecout ou Instat, par exemple. On a à la fois les observations en direct, pardon, et le défrichage sur des outils d'analyse qui constituent une grosse partie du travail du recruteur. Comment tu répartis ton travail entre ces deux activités, entre guillemets, c'est la même activité de recruteur, mais entre ces deux pôles, entre guillemets, et qu'est-ce que ces plateformes qui sont devenues essentielles aujourd'hui dans les cellules t'apportent au quotidien?
Alors déjà, entre scouter en live et scouter avec des outils, c'est vraiment le jour et la nuit, hein, à choisir. On préférerait voir tous les matchs en live. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, hein, ce que c'est Wisecout et Instat, en gros, c'est un match à la télévision plus. Ça veut dire que vous
c'est
allez.
C'est une bonne définition, ouais.
C'est voilà, ça veut dire que vous allez voir un match effectivement comme s'il était télévisé, mais vous pouvez également prédécouper des thématiques, les duels aériens. Je veux voir tous les duels aériens de ce joueur, toutes les passes de ce joueur, toutes les passes de ce joueur, etc., etc. Or, ce prédécoupage, quoi qu'on en dise, on sera toujours nous tributaires de l'œil du réalisateur, qui lui, son rôle, c'est de prendre le plus d'informations possible. Sauf que lorsqu'on est recruteur, c'est de prendre le plus d'informations possibles qui nous intéressent, ouais. Le sujet.
Sachant que le réalisateur est quand même très fixé sur le ballon aussi. Et c'est ça la difficulté.
Exactement. Et alors qu'un recruteur, lorsqu'il est en live, il y a beaucoup les informations parfois les plus intéressantes, c'est ce qui se passe en dehors du ballon. C'est la réaction après une perte de balle auprès du coéquipier, c'est la façon d'encourager, c'est la réaction après une passe, la façon d'en... Oui, donc tous ces éléments-là qui sont hors cadre sur le match de la télévision, on les voit lorsqu'on est en live. Donc, comme tu l'as dit, en fait, je ne peux pas être plus prosaïque que ce que tu as déjà dit, Joanne. Le scouting vidéo, ça reçoit à faire de l'analyse technique très précise lorsqu'on regarde des tranches de match très 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 larges, comme je t'ai dit, une cinquantaine, une soixantaine, ou alors, comme tu l'as dit, à défricher sur une idée du scouting live. Parce que lorsqu'on observe un match en direct, sur place, in situ, on va éviter le jargon, hein. Tout de suite, tu as un flot d'informations qui est extrêmement intense. Ah oui, justement, à propos d'intensité, j'ai oublié un truc qui est important. Le problème aussi des matchs que l'on regarde, que ce soit sur l'ordinateur ou à la télévision, c'est que la télévision, je trouve, lisse l'intensité des matchs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à bien se rendre compte en fonction de la largeur des cadres, de la largeur des plans, on ne se rend pas forcément bien compte de l'intensité qu'imprime un joueur ou qu'imprime un match. Et pour le comparer à ce qui se passe dans nos championnats, c'est difficile.
Mais tu sais que c'est quelque chose qui est très important au niveau de la réalisation. Par exemple, la Première Ligue a réussi à donner l'impression, alors c'est pas qu'une impression, ça se vérifie sur le terrain, mais c'est amplifié par la réalisation, le côté intense avec des caméras très plongeantes et des plans un peu plus serrés qu'ailleurs. Et par exemple, en Italie, on a des plans très larges qui donnent une impression de lenteur infinie parfois pour deux simples passes ou deux mouvements. Ça a un impact effectivement même sur... en fait, des réalisateurs peuvent te donner une impression totalement différente du match que tu es en train de regarder en fonction de comment il installe ses caméras et comment il sert ou pas un cadre.
Exactement. Et en fait, il ne faut pas oublier que le sport à la télévision est un spectacle. Donc, il est conçu pour ça. Et donc, du coup, il est soumis à tous les biais cognitifs que peut recevoir un cerveau humain. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Alors, attention, le scouting live aussi, il crée des biais cognitifs. Je pense qu'on va en parler. Mais si on ne comprend pas si on ne prend pas conscience que la télévision joue avec comme tu as dit, des hauteurs de plan ou des contre-plongées, etc., sur le biais cognitif humain pour que ça paraisse plus rapide, plus lent, plus large, pour répondre en fait à un besoin du téléspectateur. Parce que, par exemple, le spectateur italien aime bien, on va être un peu dans le cliché, hein, mais aime bien avoir la vision de tout, sur la tactique du déplacement sans ballon, donc avoir ce sort de plan large pour voir comment le bloc se déplace. Et c'est le plaisir du spectateur italien lambda, on va dire, entre guillemets, pour rester dans le cliché. Alors que le spectacle de la Première Ligue va être dans l'intensité, dans le tact, dans l'échange, parfois la violence, etc., etc. Donc, c'est en fait tout simplement le spectacle est designé et marketé d'une différente manière en fonction des sensibilités de chaque pays. Et ça, c'est le biais cognitif de la télé. Mais le biais cognitif du live, il y en a aussi plein. Parce que j'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on voit un match sur place, on a un flot d'informations qui est immense, qui est énorme. Et pas forcément sur le point de vue du ballon, mais sur le plan mental, sur un geste, sur sa façon de réagir, sur sa façon de réagir. Ça donne un flot d'informations qui est très, très, très intense.
Je me permets de te couper un instant, ouais, Enzo. Comment tu le gères, justement, ce flot d'informations ?
Ben justement, c'est ce que je te disais, c'est en ayant conscience de ça, en se disant « Attention Enzo, ne te fais pas piéger par le flot d'informations que tu viens de recevoir. » Et parce qu'il y a une règle immuable que je me fixe pour avoir cette discipline-là, c'est que je ne peux pas avoir une connaissance, on va dire, relativement complète d'un joueur si je n'ai pas vu 11-12 matchs live et vidéo confondus. Si j'ai pas 1000 minutes, en fait, ma règle, c'est les 1000 minutes.
D'accord.
Si j'ai pas 1000 minutes de visionnage à propos d'un joueur, Je connais pas le joueur.
Ouais. Et peut-être sur plusieurs parties de la saison, parce que tu sais, tu as toujours le système
oui.
d'un joueur qui peut être très performant sur 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, et puis après disparaître un peu.
Bien sûr, parce que chaque match, c'est même pas chaque saison, c'est que parfois juste chaque match a un contexte. Chaque saison a un contexte, et combien de fois j'ai pris des baffes qui, en regardant un joueur d'une saison à l'autre, en me disant auparavant, mais celui-là, je comprends pas, il met pas un pied devant l'autre, et que sur la saison d'après, le joueur est phénoménal. Ça fait travailler évidemment l'humilité, et c'est ce genre justement d'éléments, d'histoires que je me rappelle, qui me font dire attention Enzo, ce que tu as vu, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas définitif. Donc, et c'est aussi, ça apprend aussi le détachement que tu dois avoir sur la vie que tu donnes. Si tu t'engages tout de suite par ah, il est incroyable, c'est phénoménal, il faut à tout prix le signer, après avoir vu un match, c'est que t'as rien compris à ta profession non plus, parce que à la fois l'humilité et le détachement font que, à la fois la discipline et le détachement font comprendre que tu dois être humble avec ta propre profession, avec ton propre avis. Parce que chaque histoire va être en contradiction avec ce que tu as appris auparavant.
Et est-ce que tu estimes que pour être un bon recruteur, il faut avoir un caractère assez froid, dans le sens où il faut éviter toute émotion que le football t'apporte? Justement, c'est un vecteur d'émotion, le football. Quand tu vois une très belle performance d'un joueur, tu peux être forcément très enjoué par rapport à cette performance. Est-ce qu'il faut avoir justement ce recul nécessaire, une des qualités majeures peut-être d'un recruteur, savoir le recul nécessaire sur ce que tu vois à l'instant T, et justement ce que tu, ça fait partie de ta réflexion en disant, on va essayer de le revoir dans 15 jours, puis dans un mois, puis dans 3 mois, puis dans 6 mois, pour voir si ce que j'ai vu là à ce moment-là correspond à la réalité et pas juste à un moment d'exception.
Oui, c'est clair, et c'est ce que j'appelais en fait le détachement. C'est pas forcément de la froideur, c'est du détachement. Ça veut dire que c'est évidemment, ça va, la virgule petit pont va amuser l'œil du recruteur, va lui faire plaisir, mais on garde le sourire au fond de nous, mais il faut rappeler les objectifs concrets que l'on a lorsqu'on observe un joueur. Donc oui, on le garde au fond de nous, on garde ce sourire rieur quelque part dans notre cerveau, dans notre œil, mais c'est voilà, on est détaché de ça. Donc le mot froideur est peut-être un peu fort, mais il y a un détachement.
Ouais, donc, un vrai recul à avoir en tout cas.
Voilà, il y a pas d'engagement émotionnel. Il y a la tâche de fond émotionnelle, comme je disais tout à l'heure, des émotions de l'enfance, de notre conception du football. Ça on l'a, mais non, elle est détachée du travail que l'on a. Elle est à côté, elle est en parallèle.
On parlait du scouting live, du scouting dans les stades. Une question peut-être de méthodologie, puisque tu parlais tout à l'heure aussi d'un flux d'informations qui t'arrive de manière très importante et peut-être même de manière très violente parfois, parce que si le jeu est très intense, il faut réussir à capter tout ça, etc. Est-ce qu'on peut parler rapidement de ta méthodologie sur place? Par exemple, comment se fait le déroulé de ton travail lors d'un match d'observation, grossièrement? On imagine qu'il y a une partie effectivement au stade live pour éviter de passer à côté de beaucoup de choses, ou en tout cas d'en retenir un maximum. Et puis une partie, on va dire, si c'est un déplacement loin, par exemple, à l'étranger, typiquement, ça peut être une partie à l'hôtel pour tout de suite coucher très rapidement tout ce que tu as vu pour bien t'en souvenir et être imprégné du moment.
Déjà, il y a la préparation en amont. J'essaie d'éviter d'avoir des informations concrètes, style data, transfer market, avant de voir les matchs. Par contre, parfois, je regarde certains matchs de l'équipe sans forcément m'intéresser au nom, mais juste pour voir un peu pour m'habituer au rythme. Ensuite, sur place, personnellement, j'arrive entre 1h et 45 minutes avant un match. Ça me permet de voir l'échauffement, parce qu'il y a des informations qui sont essentielles à l'échauffement. Parfois, à l'échauffement, je regarde l'échauffement des deux équipes et je me dis, oh là là, cette équipe-là va se faire défoncer, et ça se vérifie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité ou de l'émotion que dégagent les joueurs sur l'intensité d'un échauffement ou sur l'enthousiasme qu'ils mettent, tu sais qu'il y a une équipe qui va dominer l'autre, et très vite, et parfois ça se vérifie, en fait, je le ressens, c'est un peu paranormal, j'ai envie de dire, mais très vite ça se ressent. Donc ça donne des informations qui sont vachement essentielles pour un recruteur. Et ensuite, sur la méthodologie concrète, moi personnellement, je vois beaucoup de collègues qui ont des cahiers, top coach, etc. C'est une méthode, c'est leur méthode, je respecte. Moi, personnellement, j'ai ma propre fiche d'observation que j'ai faite moi-même avec des grilles d'informations que j'ai moi-même remplies, mais surtout en laissant des champs bien libres sur ce que les joueurs peuvent exprimer, pas en mettant des cases techniques, surtout des cases d'expression, en fait, des thématiques générales où dedans, je veux dire, sur ce point-là, voilà ce que le joueur a fait, sur ce point-là, voilà ce que le joueur a fait.
Peut-être ne pas être trop enfermé avec une grille très restrictive.
Exactement,
Ouais.
exactement. Je suis pas trop enfermé, mais par contre, j'ai juste un cadre défini sur ce que je vais développer comme thématique. Et en fait, les thématiques sont les dynamiques du match, les dynamiques du joueur, et etc., etc., quoi. Donc c'est plus des questions de dynamique ou de cadre du match qui vont encadrer mon analyse de recruteur plutôt que des cases. Est-ce qu'il est bon en technique? Est-ce qu'il est bon en dribble? C'est pour moi, ça c'est absolument trop restrictif et pas du tout concret sur ce qu'on observe auprès d'un match. Et surtout, ça enlève toute la richesse que peut avoir un match, en fait.
Et entre cette prise de notes sur ta fiche et un rapport définitif, est-ce que tu as une autre étape ou ensuite tu passes directement à la constitution de ton rapport?
Non, en général, en fait, j'essaie d'emmagasiner toute cette information et cette froideur que j'ai en rentrant, soit à l'hôtel, hein, parce que évidemment, on a un métier où on voyage beaucoup, soit à l'hôtel ou soit à la maison. Et en fait, le temps que je prends pour digérer les informations que je viens d'avoir. Donc, en général, la rédaction du rapport va arriver soit le soir même, soit le lendemain, ou soit le surlendemain.
En dehors des structures classiques des clubs avec une cellule de recrutement intégrée, on a noté ces dernières années l'apparition de sociétés dédiées de scouting. Alors c'est pas forcément totalement nouveau puisque toi tu avais une société en 2016 où tu travaillais en freelance pour plusieurs clubs, mais on a l'impression qu'aujourd'hui il y a une volonté d'industrialiser quasiment ce processus-là. Et notamment peut-être avec des gens qui sont attirés par cette hype de recrutement et avec tout ce que ça peut apporter en retombée derrière. Et on pense notamment à la société de Luis Campos en France. Est-ce que tu penses que c'est une menace potentielle, ces sociétés externes, pour les cellules intégrées au club?
Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça va permettre de structurer le recrutement. D'ailleurs, ta question en fait me permet de faire un point parce que on voit souvent ces cellules de recrutement un petit peu externes comme des machines de data ou des choses qui vont infliger des connaissances. Moi, j'ai du
C'est souvent
mal
comme ça qu'elles sont présentées, en tout cas, Enzo.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi en France, on a tendance à opposer data et scouting traditionnel, comme si l'un allait manger l'autre, ou comme si l'un était contre l'autre. J'entends souvent dans certaines émissions de radio que la stat, c'est des conneries, et tout, etc. Mais la connerie, c'est ça, c'est quoi? La connerie, c'est ça, en fait, c'est d'opposer les deux. Quelle connerie monumentale de ne pas comprendre que c'est complémentaire en fait.
Tu peux totalement allier ton impression visuelle à chaud avec justement le recul mathématique de la stat, entre guillemets. Ça permet souvent de confronter, pardon, ton jugement à des éléments mathématiques qui te permettent quasiment de double-checker ou de mettre en accord ce que tu as vu et ce qui s'est passé. Donc en fait,
Bien sûr.
c'est totalement complémentaire.
Alors c'est complémentaire. Alors je vais schématiser un petit peu d'une manière un peu métaphorique par rapport à ton assertion, Joanne. Si je vais me permettre une métaphore. Le scouting live, c'est un adulte qui voit un échantillon de match très réduit avec beaucoup d'intensité. La data, c'est un adolescent qui a vu tous les matchs mais qui n'a pas forcément un prisme correct et complet de compréhension du football. Donc justement, par rapport à ça, c'est à l'œil adulte de réinterpréter, de réutiliser, de confronter, de contextualiser par le visionnage, par la compréhension des chiffres. Parce que à partir du moment où on comprend que la data a des failles, parce qu'elle est encore adolescente par rapport au football, elle est très adolescente, elle est très très jeune en fait, la data c'est très jeune dans le football. À partir du moment où on a cette critique-là, toute humble, toute pure, pour réinterpréter par l'œil, eh ben, on est tranquille, en fait, lorsque l'on visionne. Et attention, il y a beaucoup de biais cognitifs qui peuvent être créés par ça, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent, parfois, en ayant la data d'abord sur une qualité très précise, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, les duels aériens. Si le joueur a un taux de duel aérien très élevé, bah, lorsqu'on va visionner les duels aériens, on va se dire, bah, le joueur, inconsciemment, on va se dire, ah bah oui, le joueur, il est bon, on va partir de l'état de fait qu'il est bon sur les duels aériens. Et sur les duels aériens, il n'y a pas que gagner un duel. Parce que sur la data, un joueur qui gagne un duel aérien, la balle, elle retombe à 1 mètre dans les pieds d'un joueur dans les 20 mètres et il tire juste directement, il y a lucarne derrière. C'est pas un duel aérien qui est positif pour l'équipe. Parce que dans le duel aérien, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est la connaissance technique que j'ai acquise au fur et à mesure qui m'a permis de rester détaché et froid par rapport à ça et de partir sur une feuille blanche lorsque je visionne un joueur, même si la détail était censée m'influencer au départ. Il y a le timing, il y a la capacité il y a la qualité technique de la tête à mettre la balle très très loin. Et il y a aussi l'appréciation des trajectoires. Ça, c'est les points techniques qui te permettent d'analyser si le joueur il est bon en duel aérien ou pas. Le nombre de duels remportés sur le chiffre en lui-même, c'est un élément de plus. C'est un élément de plus parce que lorsque forcément la data, elle va compulser et réunir les statistiques de 30, 40, 50, 60, 70 matchs, et ben ces 70 matchs-là, tu ne vas pas forcément les visionner parce que nous, on est limité en temps. Donc nous, on va avoir un échantillon très réduit de cette somme incalculable de matchs. Donc ça ne se confronte pas, ça ne s'oppose pas, mais ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire. Parce que attention, hein, l'œil aussi, il a des biais cognitifs, l'œil aussi, il a ses failles. Moi, un jour, j'ai vu un spectacle de magie, j'ai vu un magicien, il a sorti un lapin d'un chapeau. Et ça, c'est mon œil qui me l'a dit. Est-ce que pour autant, le lapin, il est vraiment sorti du chapeau? Non, il y a un double fond, il y a un truc. Ben, c'est pareil. Parfois, le match en lui-même va te donner une illusion sur un comportement parce que le contexte est très précis, parce que le contexte est favorable ou défavorable. Et moi, j'avais lu le bouquin Soccernomics qui détaillait certains biais cognitifs en fait de l'analyse et qui aussi analysait aussi la faiblesse de l'œil parfois. Il y avait une étude qui m'intéressait qui expliquait que les blonds ont des rapports parfois souvent plus positifs par les recruteurs que les joueurs bruns. Pourquoi ? Parce que les blonds sont plus rares par rapport aux bruns, donc on les remarque plus.
Ouais.
Donc du coup, on les voit plus. Donc du coup, on détaille plus la performance. On se rend compte de la bêtise de ce biais cognitif-là. Donc, encore une fois, l'œil n'est pas n'a pas science infuse non plus. Donc, avoir la confrontation de données, c'est intéressant. Mais justement, pour être intéressant sur la donnée, il faut la critiquer avec le prisme du football, le prisme de la question concrète du football. Parce que le problème, il est plus là, en fait. Le problème, il est plus là, c'est qu'on a des stats, on a des chiffres, on a eu pendant très longtemps, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait venir dans le football, on a eu des chiffres qui n'avaient aucune importance ou aucune incidence ou qui complètement dévoyaient complètement la vision du football qu'on avait, alors que ce n'est pas ça le football, ce n'est pas ça le concret.
Et puis après, c'est une question aussi de qualité et de sous-catégorie aussi d'une stat. Par exemple, un tir cadré, si c'est un tir à 30 mètres qui arrive à 2 à l'heure dans les bras du gardien, ça a pas forcément une plus grosse valeur. Ça a pas une plus grosse valeur qu'un tir hors cadre qui touche le poteau. Et c'est aussi une question de la stat fournit une sorte de quantité de matière que l'œil, lui, de son côté, le live du coup permet de traiter avec un filtre, on va dire, de qualité plus complet. Et c'est pour ça que les deux se complètent totalement, en fait. Mais on va arriver à la fin de l'entretien, Enzo. On va parler un petit peu d'avenir, une dernière question d'avenir. Comment tu imagines, toi, l'avenir du scouting et des cellules de recrutement? Je te prends un exemple tout simple, hein, qui est très d'actualité. Avec la crise sanitaire, on parle de plus en plus de matchs à huis clos pendant plusieurs mois dans de très nombreux pays. On en a parlé en Allemagne, on en a parlé en Angleterre, on en a parlé aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Ne plus pouvoir faire d'observation en live, est-ce que ça peut changer radicalement ta manière de fonctionner?
Je pense sincèrement que la crise du Covid-19 va marquer un tournant dans la façon de recruter, parce que quoi qu'il arrive, en fait, ceux qui ont traversé cette période et qui n'ont pas la capacité d'analyser par les outils tels que Wyscout ou Instat ou par les données, en fait, ne peuvent plus travailler. Donc, et pareil, parce que lorsqu'il y a un match à huis clos, ben, on ne peut pas y aller, hein, c'est aussi bête que ça. Donc je pense sincèrement que cette crise-là, en fait, va de facto nous faire entrer dans la next gen du recrutement, du recruteur qui est obligé de comprendre son outil pour pouvoir défricher le visionnage d'un joueur ou la compréhension d'un joueur. Et ça aussi, ça passe également par la progression de la data. J'y crois. Parce que lorsque moi je suis arrivé dans le football en 2014-2015, la data pour moi était un maelstrom sans nom. Ça veut dire une sorte de magma d'informations complètement inutile. Et il faut comprendre que elle-même la stat a évolué. Et je pense que plus la donnée va évoluer dans son analyse,
va même s'affiner.
Plus également, en fait, le recruteur pourra être pointu. Elle va s'affiner, il va être pointu. Je vais donner un exemple tout bête. Quand moi je suis entré donc dans le monde du football vers 2014-2015, faut savoir que voilà, vraiment tout ce qu'on a là, les expected goals, les expected assists, je vais en parler tout de suite là, c'est très récent en fait, c'est très récent. Mais quand je suis arrivé moi dans le monde du football vers 2014, 2013, 2015, cette période là, comment on pouvait définir un bon passeur ou un bon buteur? Bah, comme tu le disais, avec tir cadré. Alors le bon passeur, ça c'est exceptionnel. Le bon passeur en Europe, c'était le taux de passe réussi ou les passes décisives, qui sont deux biais complètement injustes d'évaluation d'un joueur. Et c'est pour ça que lorsque j'étais rentré des États-Unis, j'ai essayé de m'inspirer de certaines évolutions qui sont déjà faites sur la donnée. Je trouvais que, par exemple, pour le taux de passe réussi, le nombre de mètres en progression faite par un joueur pour la verticalité de ses passes, je trouvais que c'était un facteur bien plus important que le taux de passe réussi. Surtout qu'à cette époque-là, la mode, c'était la sentinelle. Ah, la sentinelle qui a 95% de passes réussies. Mais quelle est l'incidence de sa passe? Une passe est réussie. Oui, mais si une passe à 3 mètres dans les pieds et qui est latérale ou qui est en arrière, est-ce qu'elle fait vraiment progresser l'équipe? Est-ce qu'elle fait gagner des mètres à l'équipe? Je suis pas certain. Ou alors la passe décisive. Bah, pareil, la passe décisive, c'est un pied de regard qui est injuste parce que la passe décisive, elle est dépendante de celui qui reçoit le ballon. Bah, lorsque tu es dépendant, donc du coup, la passe clé est un... La passe qui amène une occasion de but est un biais beaucoup plus intéressant pour ça. Donc par rapport à tout ça, on a encore progressé. On a les expected assists. Ça veut dire quel est le pourcentage de buts que va offrir une passe. Bah déjà, par rapport à l'analyse de toutes les situations de buts qui sont possibles et imaginables. Déjà, on a avancé d'un pas dans la réflexion du football. On est sur quelque chose de plus concret. On est sur, ok, cette passe-là amène tant de chances de but. Ça, c'est le concret. Parce que le but du football, bah, c'est de marquer des buts. Donc, on est déjà dans du plus concret. C'est la confrontation de ces deux mondes et l'analyse froide et pondérée de ces deux mondes qui vont se croiser au fur et à mesure, qui vont faire que l'analyse du recruteur sera plus pointue. Et pour moi, il y a aussi une autre étape dont on pourra parler, c'est qu'il faudra un jour que les codes du recruteur sur l'analyse live, il faudra que les codes soient enseignés, qu'il y ait une formation un jour, parce qu'il y a trop de demandes là-dessus. Il faut qu'il y ait une formation un jour officielle. Ça sera aussi un autre pan d'évolution, parce que dire j'ai l'œil ou je connais le football, qu'on soit un ancien pro ou pas, hein, c'est pas, je vise personne. Hein. Dire j'ai l'œil ou je connais le football, c'est pas un prisme professionnel suffisant pour savoir si on est recruteur. C'est très léger pour savoir si on est recruteur ou non.
Et une dernière question pour boucler l'entretien. Si tu avais une personne à inviter dans le podcast pour qu'elle nous parle de football, d'un métier en particulier lié à ce sport, tu inviterais qui?
Parce que ton format de podcast est extrêmement concret et parle de football. Moi, j'en ai une en tête, c'est quand même Marcelo Bielsa.
D'accord.
Parce que il a ce côté compulsif du football, passionné et parfois... complètement obsessionnel, que parfois je me retrouve en lui.
D'accord.
Ce côté presque scolaire qu'on m'a souvent affublé, je le retrouve en lui. Je me retrouve tellement, à la fois dans le football de Bielsa qui est tellement radical, et qui est tellement une proposition incroyable du football, mais à la fois dans sa personnalité, dans sa manière d'appréhender les événements, qui est complètement entière, et sa manière de revoir, de voir et de re-revoir les matchs. J'aimerais savoir ce que c'est vraiment en discutant, en prenant le temps de la réflexion, parce que c'est pas le jeu des conférences de presse qui est un ping-pong de questions sans le moindre intérêt d'un point de vue strictement footballistique, mais qui a un intérêt sur l'actualité, hein,
bien sûr,
mais sur la question du fond footballistique, c'est moins intéressant. Ouais, j'aurais vraiment aimé avoir un Bielsa en creusant au maximum dans le fond, parce que c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup.
Eh ben écoute Enzo, je vais voir ce que je peux faire au niveau de cette suggestion. Merci Enzo Djebali pour ta confiance et pour le temps accordé au podcast Prolongation.
Merci Johan, à très très vite et au revoir à tous nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.